C'est pour mon départ qu'Élise me fait, parce qu'à l'arrivée, c'était la même chose maintenant. Voilà, j'aimerais bien conclure avec vous cette petite série que nous avions regardée sur les chants du serviteur dans le livre du prophète Ésaïe, qui nous permettait justement de comprendre Christ et son œuvre sous un angle différent. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien aborder avec vous un des derniers chants du serviteur qui est formé notamment de deux textes très connus, eux aussi, et qui résument bien d'une certaine façon tout ce que nous avons vécu durant les temps de Pâques, d'Ascension et de Pentecôte. Les passages que nous allons écouter forment un tout puisqu'ils abordent tous les deux, la question de la relation aux pauvres et par là ouvrent le champ de ce que le Messie vient apporter. Il s'agit du passage d'Ésaïe 58, les premiers versets là-dedans, et d'Ésaïe 61 aussi, là, quelques premiers versets. Et je vais inviter les trois lecteurs à venir ici devant.
Alors, Ésaïe 58, 1 à 14, et 61, 1 à 3. Crie de toutes tes forces et ne te retiens pas. Fais retentir ta voix comme le son du cor. À mon peuple, dénonce sa révolte et aux descendants de Jacob leur faute. Ils me recherchent chaque jour, ils vivent, ils se plaisent à connaître mes voies, comme ferait un peuple qui accomplit ce qui est juste et n'a pas délaissé le droit que son Dieu a prescrit. Ils disent, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Pourquoi nous humilier si tu n'y prends pas garde?
Au jour où vous jeûnez, vous traitez vos affaires et vous exploitez tous vos ouvriers. Vous passez votre jeûne en procès et querelle, et en frappant du poing avec méchanceté. Ce n'est pas par des jeûnes comme ceux de vous que vous ferez entendre vos prières là-haut. Est-ce cela le jeûne auquel je prends plaisir? Est-ce cela un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un jour et de vous étaler sur le sac et la cendre? Pouvez-vous appeler cela un jour de jeûne que l'Éternel agrée?
Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime et à briser toute espèce de joug. C'est partager ton pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres sans-abri. C'est donner des habits à celui qu'on voit nu, ne pas te détourner de ton prochain, ton frère.
Alors, comme l'aurore jaillira ta lumière, ton rétablissement s'opérera bien vite. Oui, alors la justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel sera l'arrière-garde. Quand tu appelleras, l'Éternel répondra. Quand tu crieras à l'aide, il dira, je suis là. Si du milieu de toi, tu supprimes le joug de l'oppression, les gestes menaçants et les propos méchants, si tu donnes ton pain à celui qui a faim, et si tu pourvois aux besoins de l'opprimé, la lumière jaillira pour toi au milieu des ténèbres, et ton obscurité se changera pour toi en clarté de midi, et l'Éternel sera ton guide constamment.
Il pourvoira à tes besoins dans les déserts arides. Il te fortifiera et tu ressembleras à un jardin bien arrosé, à une source vive aux eaux intarissables. Les tiens rebâtiront les ruines d'autrefois et tu relèveras les fondements posés dans les siècles passés. Tu seras appelé Réfach. Et celui qui restaure les demeures en ruine.
L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer l'année du jubilé, de bienfaits accordés par le Seigneur, et un jour de vengeance pour notre Dieu, consoler tous ceux qui sont en deuil.
Merci pour cette lecture. Je vous invite à la prière pour remettre ce temps d'écoute de sa parole dans les mains de notre Seigneur. Nous prions. Oui, Seigneur, tes paroles sont lumière, sont vérité et aussi réconfort. Donne-nous comment ces instants de les écouter et d'y puiser tout ce dont nous avons besoin. Merci pour ta parole qui nous guide sur nos chemins, qui nous montre quel chemin prendre et qui nous permet de te connaître pleinement. Merci Seigneur. Amen. Le premier discours, le premier meeting d'un candidat est toujours quelque chose de très important. Vous le savez, on le voit bien en période électorale, c'est quelque chose que nous connaissons. Le candidat fixe ses directives, il pose des mots, il permet de se rattacher à une histoire, à un élan, à quelque chose de bien précis. Et si on transpose cela à l'histoire de Jésus, eh bien on n'est pas loin d'être surpris. Le premier meeting qu'il tient en tant que Messie, c'est de transformer de l'eau en vin durant une fête. Et son premier sermon, qui nous est rapporté dans les évangiles, précisément Luc 4, prend pour appui notamment le texte en Ésaïe 61. Luc nous dit d'ailleurs que l'interprétation que Jésus va en donner va tellement outrager les gens qui ont connu Jésus depuis son enfance qu'ils vont vouloir le mettre à mort. Il va être, à partir de là, à de cet instant, on pourrait dire, persona non grata, dans son village, et c'est ce qui explique en partie sa rupture avec sa famille à ce stade-là. Alors comment comprendre cette réaction de ces gens? On pourrait dire, si vous étiez Jésus, sans être présomptueux, mais quel texte auriez-vous choisi comme référence pour parler de vous et dire qui vous êtes et de présenter, on pourrait dire, votre programme de candidat? Jésus, en Luc 4, choisit donc Ésaïe. Et il dit, « Le Seigneur me remplit de son esprit, car il m'a consacré et m'a donné pour mission d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle et de prendre soin des désespérés, de proclamer aux déportés qui seront libres désormais, de dire aux prisonniers que leurs chaînes vont tomber, d'annoncer l'année où le Seigneur montrera sa faveur à son peuple. » Ou d'autres traductions disent, « De proclamer une année de grâce, une année de jubilé. » Alors déjà, en entendant cela, on peut se poser toutes sortes de questions. Nous savons que la raison de la venue de Jésus est pour apporter le salut dans le monde, pour sauver les pécheurs. Alors pourquoi est-ce qu'il s'approprie spécialement ce texte? Pourquoi semble-t-il dire qu'il est ici pour les pauvres? Et du coup, quel est le rapport avec le salut? Bien, on se trouve en fait ici devant trois notions qui semblent de notre point de vue, peut-être désarticulé. On voit la mission de Jésus, « je suis venu, car », on voit qu'il parle des pauvres, et puis on voit qu'il parle de salut. Alors le but est de tenter de voir comment ces trois notions sont articulées entre elles dans l'esprit d'Ésaïe, mais aussi dans celui de Jésus, puisqu'il reprend ce texte, et de tenter de voir comment ces notions forment un très bon résumé de tout ce que nous avons déjà dit sur ces psaumes, sur ces chants du serviteur. Et pour comprendre l'articulation entre ces trois, on va regarder trois versets où ces notions apparaissent. Premièrement, pour la mission de Jésus, on regardera le passage où il est dit d'annoncer ce que je viens de lire, l'année où le Seigneur montrera sa faveur à son peuple, l'année de jubilé. Pour le terme de pauvre, on regardera ce passage avant Ésaïe 58, ou notamment cette phrase « Ne pas tourner, de se détourner de celui qui est ton prochain ou ton frère ». Et troisièmement, on regardera tout ce passage sur le jeûne que nous avons vu tout au début. Sur l'année de jubilé, sur le pauvre ou le frère, aussi le prochain, sur le jeûne, pour comprendre l'articulation entre les trois et comprendre justement cette mission de Jésus. Alors regardons ces premiers passages justement sur cette année. Oui, le Seigneur me remplit de son esprit, il m'a consacré, m'a donné mission d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle Et il dit à la fin d'annoncer l'année où le Seigneur montre sa faveur à son peuple, d'annoncer l'année de jubilé. Cela fait partie des points qui sont en doute, ont fait bondir ceux qui ont entendu Jésus ce jour-là dans la synagogue qui répétait ce texte. Pourquoi ? Car ici, c'est une référence directe à Lévitique 25. Une loi, on pourrait dire vraiment incroyable, et elle reste toujours vraiment incroyable, qu'avait mis en place Moïse, qui est celle du jubilé. Et c'est quoi ce jubilé ? C'est que tous les 50 ans, toutes les dettes étaient effacées. Les esclaves étaient libérés, les terrains étaient rendus à ceux qui les possédaient à l'origine. Voyez, c'est quand même incroyable. Et quelle est la logique en faisant cela ? Eh bien, c'est quand Israël est rentré dans le pays promis, il fut divisé en terrains de façon égale pour tout le monde. Malheureusement, avec le temps, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a des gens qui réussissent et d'autres qui réussissent moins. Il y a des circonstances diverses, le travail, des décès probablement, des choix divers. Et tout cela fait bouger les choses inégalement. Et la volonté de Dieu était que tous les 50 ans, quelles que soient les circonstances, tout redevienne comme avant. Tout soit égal, juste pour tous. Cela voulait dire que chaque famille avait une occasion, et c'est vraiment beau de le réaliser, chaque famille avait une occasion durant leur vie, quelles que soient leurs circonstances, d'éponger leurs dettes et de reprendre leurs biens. Vous imaginez si on vivait cela en France ? Ce serait incroyable, en effet. Bien sûr, c'était une façon d'inscrire une réalité, on pourrait dire théologique, une réalité de qui est Dieu au plus profond du système économique et social de la société juive. Une façon de se rappeler que c'est Dieu qui est utilement le propriétaire des biens qu'il veut et qu'il veut leur bien à chacun. Mais c'était aussi une manière de se souvenir qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu qu'une pauvreté, on pourrait dire endémique, s'installe dans son pays. Alors, comment relier cela à Jésus et à son œuvre ? Eh bien, là, quand Jésus reprend ce passage, il est en train de dire, et c'est cela qui a outragé beaucoup, alors je sais pas, il y a plus de chaises là, si vous voulez, moins de soleil. Oui, ça va aller ? Parce que je pense que ça ne doit pas être très agréable, en effet. Venez, venez, sentez-vous libre de vous... Parce qu'il est... Voilà. Là, il y a juste derrière aussi, ou là, le banc. Voilà. Non, devant, il y a du soleil. Vous aurez remarqué, il y a plus de gens de ce côté-ci, hein, quand même. Il y a moins de soleil par ici. Alors, comment relier cela à Jésus et à son œuvre ? Jésus dit, en reprenant ce texte quelque part, « Eh bien, voyez, je suis l'envoyé de Dieu et je suis celui qui vient annoncer cette année de jubilé qui est là. » Alors que l'année, légalement, n'était pas là. C'était pas l'année de jubilé. Mais en plus, dit-il, je viens vous parler quelque part d'un autre jubilé, celle du royaume de Dieu. Avec moi, est-il en train de dire, s'ouvre désormais un autre temps qui finira par le renouveau de toutes choses. Et cela, pour toujours. Je viens vous annoncer une libération tellement complète, non seulement physique, économique, sociale, mais aussi spirituelle. Vous voyez ce que Jésus est en train de dire ? La guérison, le jubilé avec sa remise de dette, n'est qu'un reflet de quelque chose de plus profond que Jésus apporte de la part de Dieu. Guérir, aller vers les pauvres, restaurer les autres dans leur dignité, libérer les captifs, tout cela parle et s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus profond, un mouvement sous-jacent qui vient de Dieu. Oui, quelque part, Jésus est en train de dire « Mon royaume est en marche ». Et il ressemble à une rivière en crue que rien ne peut arrêter, une force de renouveau irrésistible qui va avancer et qui va effacer tout l'ancien. Voilà ce qu'annonce Jésus sur sa mission quand il parle d'année de grâce, de jubilé. C'est puissant et cela bouleverse complètement. Et quelque part, ce n'est pas étonnant que les gens ont réagi. Alors regardons ce deuxième passage où il parle de faire la volonté. Faire ma volonté, dit Dieu, c'est libérer les hommes injustement enchaînés. C'est délivrer des contraintes qui pèsent sur eux. C'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. C'est supprimer tout ce qui les tient esclaves. C'est partager le pain avec celui qui a faim. C'est ouvrir ta maison aux pauvres, aux déracinés. C'est fournir un vêtement à ceux qui n'en ont pas. C'est ne pas se détourner de celui qui est ton prochain, qui est ton frère. On comprend les mots de pauvre ou d'opprimé, de déraciné. Car nous le vivons encore à notre époque. Nous entendons parler de cela. Nous l'avons même rencontré dans nos quotidiens. Mais qu'est-ce qu'Ésaïe entend par ce mot de prochain et notamment souvent traduit par frère? En fait, nous, là, en le lisant, cela ne nous choque pas. Notre culture d'aujourd'hui admet tout à fait que l'on puisse appeler quelqu'un, on pourrait dire notre frère en humanité. Puis nous, ici, dans l'Église, on s'appelle frères et sœurs. On est habitué. Mais en revenant dans une culture comme celle du Moyen-Orient ancien, où ce qui est vraiment important est la famille et que la famille, vous voyez, cela prend une autre résonance. Et c'est pour ça aussi que les gens ont réagi. On ne disait pas que les autres étaient l'équivalent de son frère, que le prochain pouvait être son frère. Encore moins de dire que le déraciné, l'opprimé ou le pauvre pouvait être son frère. La fratrie était sacralisée, on ne touchait pas à cela. Il y avait ceux de la famille et puis les autres. Et ce n'est qu'avec l'avènement du christianisme qu'on a commencé à développer justement ce concept clé d'ailleurs, d'être frères et sœurs en Christ, dans nos relations avec les autres, même avec ceux qui ne sont pas vraiment nos frères et sœurs par le sang. Et évidemment, cela donne toute une autre résonance aux paroles de Jésus quand il reprend ce texte, quand il parle de ce frère de sang, et quand il fait la différence entre les frères spirituels. Alors, qu'est-ce qu'Ésaïe, lui, est en train de dire ici? Eh bien, il est en train de parler de notre motivation profonde envers les autres et de la dynamique du bien à laquelle Dieu nous appelle. Car Dieu le dit même, il a, voilà ce que j'aime voir, quand vous vous décentrez de vous-même pour aller vers les autres de cette façon, et même que vous vous décentrez de vos idoles, de vos repères, de vos familles que vous gardez, que vous sacralisez, de ce que vous avez de plus cher, de plus précieux, pour commencer à considérer les autres comme, oui, vos frères, vos sœurs, comme ceux de votre propre sang. Et c'est d'ailleurs très fort de regarder de qui il s'agit dans ce texte. C'est assez bien traduit quand on parle de déraciner. En fait, c'est le terme utilisé pour parler de migrants étrangers, de l'émigrant. Et c'est lui que dit Dieu que tu dois considérer comme ton frère. C'est fort pour eux à cette époque. Et là, c'est totalement extrême, totalement entier. Oui, pour ces Juifs de cette époque, mais avouons-le, c'est beaucoup aussi pour nous encore à notre époque, nous qui avons tellement de difficultés à accepter ce genre d'étrangers-là. Alors nous avons, alléluia, le travail d'Abipac, qui accompagne les gens pauvres et les déracinés, mais c'est pas comme ça dans toutes les églises, et encore moins dans notre société, et encore moins dans d'autres pays, juste aux alentours. C'est dur pour beaucoup d'accepter et d'accueillir l'autre, l'étranger, quel qu'il soit. Et ce texte a pour but de nous aider à comprendre que notre relation à l'autre dépend de toutes sortes de conceptions et d'images sur lesquelles Dieu nous questionne, Dieu nous interpelle. Autrement dit, quand Dieu se mêle de notre rapport à l'autre, oui, les choses prennent une autre tournure. Il nous ouvre à un rapport avec l'autre, avec lequel nous avons, oui, du mal. Il nous détache de nos repères et de nos facilités et nous tourne vraiment vers les autres. En fait, il nous offre d'aimer l'autre comme lui nous aime. Aimer le pauvre, l'étranger, l'immigrant, mais aussi son voisin, son collègue, son lointain cousin, qui semble nous haïr. Aimer, les aimer comme son frère, sa sœur, comme quelqu'un de sa famille, c'est énorme. Alors passons à ce dernier passage sur le jeûne. On pourrait dire, c'est quoi cette histoire de jeûne? On ne l'a pas tout à fait lu en entier, mais en Ésaïe 58, c'est une conversation que le peuple a avec Dieu. Et ils lui disent, « Ah, mais Seigneur, nous jeûnons, nous prions, nous faisons tout ce que tu nous as dit de faire, et tu ne sembles pas. » On pourrait même dire, « Tu ne réponds pas à nos prières. » On ne peut comprendre ce texte si l'on ne comprend pas le contexte dans lequel il est dit. Car quand arrive ce jeûne précis qui est demandé, eh bien, une fois l'an, lors du grand pardon, le fameux Yom Kippour, quand le grand prêtre va dans le temple pour offrir un sacrifice, c'était une façon pour le peuple de se souvenir que malgré tous leurs efforts, le pardon n'était que possible que si Dieu l'accordait et s'il était médié par un sacrifice. Mais alors, qu'est-ce que Dieu remarque et reproche à ces Juifs? Pourquoi justement ne répond-il pas à leurs prières? Eh bien, c'est ce qu'il leur dit, que même quand ils jeûnent, ils continuent malheureusement de pratiquer toutes sortes de méchantes choses avec les autres durant ce temps. Ils exploitent leurs ouvriers, comme il est dit, ils font des procès, ils frappent du poing, alors que le jeûne est fait pour toute autre chose. Il est fait pour quoi? Eh bien, jeûner a justement pour but d'arrêter de faire. C'est résister aux désirs néfastes qui nous sont envahissants. C'est de détacher des liens de cette méchanceté. C'est briser le joug qu'on a placé sur l'autre. C'est partager. C'est offrir l'hospitalité. C'est donc être ouvert à l'action de Dieu en nous et à travers nous. C'est mettre du temps à part pour croître en Dieu et voir justement ce qu'il nous demande réellement. C'est vouloir rentrer dans une plus grande cohérence de vie, mais aussi de pratique. C'est vouloir s'offrir et s'offrir à Dieu d'une façon nouvelle et renouvelée. Mais Dieu est en train de leur dire, vous ne voyez pas que vous êtes en complète contradiction avec ce que je veux vraiment? Vous utilisez le jeûne, on pourrait dire presque comme un alibi. Vous faites tout ce que j'ordonne formellement, mais vos cœurs restent méchants au-dedans de vous. Or, si vous acceptiez vraiment le message du sacrifice, c'est-à-dire que vous acceptez que vos efforts ne suffisent pas, qu'il ne suffit pas de donner l'aumône ou un beau sacrifice pour vous donner bonne conscience, que ce Yom Kippour est une occasion de remettre les pendules à l'heure selon mon heure et que c'est une vie transformée par la grâce qu'il vous faut, alors votre vie prendra un tout autre tournant et une autre dimension. Et quelle dimension? Comme le dit en Ésaïe, pour toi qui prends cela en compte, ce sera l'aube d'un jour nouveau. Ta plaie ne tardera pas à cicatriser, le salut te précédera et la glorieuse présence de Dieu sera ton arrière-garde. Quand tu appelleras, eh bien là le Seigneur répondra. Quand tu demanderas de l'aide, il te dira, mais j'arrive. Le Seigneur restera ton guide, même en plein désert. Il te rassasiera et te donnera des forces. Tu feras plaisir à voir comme un jardin bien arrosé, comme une fontaine abondante dont l'eau ne tarit pas. Alors comment rassembler tout ce qui a été dit, tout ce que je viens de dire? Quelle est finalement l'articulation qu'il faut comprendre? Eh bien, tout ceci nous donne une perspective nouvelle sur Christ et sur l'œuvre de salut qu'il a réalisée. Quand nous contemplons Christ, il faut voir avec lui tout le royaume qui est en marche. Il faut voir qu'en lui, nous sommes une grande famille, oui, des frères et sœurs, quelle que soit notre situation, notre nationalité, notre rang, nos circonstances. Cela donne du relief au sacrifice qu'il a accompli sur la croix pour le salut qui inclut le fait qu'advienne un monde complètement nouveau. Nous sommes appelés à refléter ce monde nouveau en nous engageant dans des actes qui le font advenir et prendre soin des plus faibles en fait partie. Et c'est pour ça que vous avez Habipac. Regardez Christ, notre frère, qui donne sa vie pour que nous puissions appeler les autres, justement, frères et sœurs. Voyez, la fraternité n'est pas qu'un message français, il est profondément chrétien avant tout. Nous sommes appelés à proclamer le Christ qui nous apporte le grand pardon. Et d'ailleurs, cette expression pourrait plutôt être utilisée que Pâques. On l'utilise pas assez souvent. On pourrait dire Pâques, le grand pardon. Le pardon une fois pour toutes qui nous libère de la mauvaise conscience et du péché, qui nous permet d'entrer dans une liberté nouvelle pour aller vers les autres, justement de façon nouvelle. Et ce n'est pas quelque chose d'optionnel, pardon, mais quelque chose au cœur même de notre foi. On aime parler de charité, de solidarité, de diaconat. On aime avoir le choix de donner ou de ne pas donner. On aime dire qu'on a de la compassion. Mais ce n'est pas comme cela que la Bible formule le rapport aux autres, aux déracinés. Notre rapport vers ceux qui souffrent, ceux qui sont rejetés, ceux qui sont au banc de la société et de l'ordre de la liberté est essentiel, et essentiel au message de l'Évangile. Il est au centre de la mission de Jésus et il reflète profondément l'œuvre de salut. Et cela doit faire partie de notre quotidien, et pas juste à Bipac, mais dans nos quotidiens, à nous aussi, dans la façon dont nous traitons l'autre. Notre voisin peut être malchanceux, le malade d'à côté qui a à peine de quoi manger, l'SDF qu'on croise dans la rue en se promenant, les migrants qui demandent de l'argent au feu rouge quand on traverse Alès. Voilà comment mettre ces paroles d'Ésaïe reprises par Jésus en pratique. C'est le vivre dans notre vie de tous les jours avec le prochain que Dieu place sur notre chemin et de l'appeler notre frère, notre sœur. Tout le contexte dans lequel est dit ces paroles d'Ésaïe est en rapport avec le Yom Kippour, le grand pardon. Cela se réalise en Jésus-Christ. C'est toute la force de vie de Jésus qui s'exprime en se donnant à la croix pour ce grand pardon libératoire. Alors, nous sommes mus par ce désir de faire profiter les autres du salut dont nous profitons nous-mêmes. Alors soyons cette Église-là, soyons ces frères et sœurs-là, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je vais vous inviter en réponse à cet appel du Seigneur à chanter ce prochain cantique. Je vais vous inviter à vous lever pour le chanter ensemble. Nous sommes unis dans l'Esprit, unis en Jésus-Christ.
Par l'amour dont nous
invite à vous asseoir. Nous voulons entrer maintenant dans la prière d'intercession, justement, prier pour les autres, et nous serons accompagnés dans cette prière avec le psaume 5. Nous prions. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je te regarde. Seigneur, nous voulons prier pour nos malades parmi nous, mais aussi dans nos familles, ou nos amis, nos proches. Nous voulons te les remettre là, en ces moments même. Nous n'oublions pas, Seigneur, de prier pour ceux qui sont dans le deuil, ceux qui se sentent seuls, ceux qui doutent. Sois leur force, Seigneur, sois présent à eux. Nous voulons te remettre aussi nos familles, nos enfants, nos petits-enfants, et te demander que ta parole fasse chemin dans leur cœur, qu'ils puissent chacun découvrir, te connaître, t'accepter. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voie sous mes pieds. Et tous ceux qui se confient en toi, oui, se réjouiront. Seigneur, nous voulons prier pour notre pays et les pays que nous représentons ce matin. Donne à ces pays de guider avec ta sagesse, avec ta justice, avec ta compassion. Nous voulons penser aussi au peuple de ce monde, ceux qui sont dans la souffrance, dans l'oppression, dans la maladie, ceux dans des événements dramatiques, comme ces inondations en ce moment, ces ouragans. Seigneur, qu'à travers tous ces moments, tous ces lieux, ces événements, tu puisses venir à eux et qu'ils puissent te découvrir. Nous voulons prier pour la mission de ton Église, celle de faire connaître ton amour, ton salut à tous. Donne à ton Église dans le monde d'être accueillante. Nous n'oublions pas de prier pour l'Église qui est persécutée. Là, Seigneur, donne-leur persévérance, donne-leur espérance. Sois leur bouclier, sois leur force. Et Seigneur, nous voulons te remettre notre Église ici, avec ce temps d'été où nous changeons de lieu, avec cette déception du temple d'Andus qui est fermé, et fermé pour quelque temps. Donne-nous de pouvoir vivre ton Église là où tu nous places, dans les lieux que tu nous places, et nous te remercions pour les lieux qui s'ouvrent à nous, et notamment pour cette chapelle. Nous te remettons aussi l'année qui arrive avec le nouveau pasteur et sa femme. Donne à chacun la joie de la rencontre, la joie de connaître un nouveau ministère, la joie pour ce nouveau pasteur et sa femme aussi. Alors oui, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours, pour toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Seigneur, donne-nous d'être un peuple heureux, heureux en toi, heureux aussi de partager notre foi avec les autres, avec nos prochains, de pouvoir les appeler frères et sœurs en toi. Et justement, Seigneur, nous voulons venir à toi avec la prière que ton Fils nous a apprise, et nous le disons ensemble, dans la langue qui est la nôtre. Nous disons notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever pour, à ceux qui le peuvent, à vous lever pour recevoir sa bénédiction. Elle est tirée de Colossiens 3:17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ, rendant grâce par lui à Dieu le Père. Que l'Éternel Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous, qu'il vous accorde sa grâce, son jubilé. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne sa paix. Allez maintenant et partagez cette bénédiction aux autres. Et je vous invite à chanter notre dernier cantique, Magnifique est le Seigneur. À chacun, vous pouvez avoir un petit verre d'eau qui est préparé déjà par Nicole s'il y en a besoin. Élise, on est contente de te revoir sur pied.